Bonjour. Et pour cette émission Terre solidaire, nous avons la chance aujourd'hui à Radio Grand Ciel de recevoir M. Kokolu Kiliou, partenaire du CCFD, qui vient pour témoigner de ce qui se vit dans son propre pays et en quoi le CCFD, c'est-à-dire vous, chers auditeurs, si vous êtes donateur du CCFD, mais aussi tout simplement vous tous, qui vous intéressez aux questions de développement. Monsieur Kokolu Kiliou vient du Togo et plus précisément de Yara Kabiyé, près de la ville de Sokodé, dans la région centrale du Togo. Et je rappelle que le Togo, c'est en Afrique de l'Ouest, donc vous venez de bien loin. Merci d'être à Radio Grand Ciel et de venir témoigner de ce que vous vivez. Merci. Alors, monsieur Kiliou, vous êtes venu invité par le CCFD. Dites-nous un peu quelle relation il y a entre le CCFD, vous-même, et votre organisation que vous allez nous présenter, bien sûr.
Oui. Le CCFD, c'est un partenaire depuis 2006 et qui nous finance pour améliorer les conditions de culture au Togo. Nous montons des projets et nous soumettons ça à une commission, ils étudient. Après, le financement nous arrive au Togo directement sans passer par l'État. Donc le CCFD nous donne de l'argent directement et nous exécutons les activités. Donc à la fin de chaque année, nous donnons des rapports au CCFD et après, si possible, on recommence encore un autre projet et il commence encore l'étude et après il nous finance.
Donc il y a véritablement un travail conjoint entre vous, les agriculteurs de Togo, et le CCFD.
Oui.
Et l'organisation, c'est MAPTO.
Oui, MAPTO. MAPTO, c'est Mouvement Alliance Paysanne du Togo.
D'accord.
C'est un mouvement qui est né depuis août 2003.
Donc, c'est plus ancien.
Oui, et c'est mis en place par les producteurs. Parce que, du coup, depuis un certain moment, nous avons constaté que le producteur n'a pas le droit d'être en contact avec une autorité. Et nous, on a réfléchi parce que dans la commande des engrais, il fallait qu'on implique le producteur pour qu'il sache qu'est-ce que nous avons besoin. Mais on ne le fait pas. Mais nous, on a cherché à mettre en place une organisation pour au moins être interlocuteur des producteurs devant les autorités.
D'accord. Donc, il s'agissait de vous faire entendre aussi par les autorités togolaises.
Oui. Nous sommes même reconnus officiellement. On est enregistré au ministère de l'Intérieur depuis 2006.
Comme organisation agricole.
Oui, oui. Et aujourd'hui, nous avons un siège national et nous avons aussi des représentations dans chaque région. Nous avons 5 régions au Togo et dans chaque région, nous avons une antenne.
Donc, d'accord. On voit bien qu'au nord du Togo, il y a l'avancée du désert. Donc, voilà. L'agriculture y est plus difficile. Mais voilà. Au sud, c'est encore très humide. C'est encore le climat équatorial, non?
Voilà. Au fait, c'est comme ça quand même. Mais c'est que tout ça, nous sommes soumis au changement climatique. Sinon, presque une seule région vers le nord a problème de pluie. Sinon, le reste des régions, souvent, on avait de pluie jusqu'à 4 mois, 5 mois. Mais depuis 2 ans, on a problème du changement climatique et on arrive à avoir seulement que peut-être 2 mois à 3 mois de pluie.
D'accord. Donc, pour résumer, changement climatique, une saison des pluies qui est beaucoup plus courte.
Voilà.
Et vous a amené à réfléchir sur l'avenir de l'agriculture.
Voilà.
Et vous-même, vous êtes agriculteur?
Oui, je suis agriculteur. Je produis le maïs.
Oui.
Et au Togo, le maïs, c'est...
C'est la base de l'alimentation?
C'est ça, c'est la base de l'alimentation. Sans le maïs, il n'y a pas la vie au Togo. Donc, c'est à base du maïs que nous vivons. On le transforme en pâtes, le moule au moulin. Et maintenant, on le transforme dans de l'eau chaude. Et on prépare en sorte des gâteaux que nous appelons la pâte. Et nous la consommons avec la sauce, soit la sauce du tomate, ou soit la sauce des légumes.
D'accord.
Voilà.
Donc, c'est vraiment la base de l'alimentation.
Voilà.
Et il y a une agriculture complémentaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'élevage en même temps ou est-ce que
oui.
C'est...
Bon, au fait, les petits producteurs s'accompagnent en même temps de l'élevage familial parce que le producteur n'a pas de l'argent pour s'acheter de la viande. Donc, il essaie de faire quelque chose au niveau de la famille et il s'en sert de viande. Donc, souvent aussi, il y a les restes des petits repas que nous en consommons. Donc, il faut au moins un petit élevage pour donner ces restes d'aliments aux animaux.
D'accord. Donc là, c'est une véritable agriculture familiale.
Voilà.
Alors vous-même, vous avez une petite exploitation. Combien d'hectares? Alors, parlons parce qu'ici, en Beauce, on a des grandes fermes. Mais...
Oui, par rapport à la France, moi, je suis venu, j'étais ému parce que j'ai peur de dire même ce que moi, je fais au pays. Parce que ce que j'ai fait ici, c'est étonnant quand même. Donc moi, au fait, au Togo, je suis un petit producteur et j'ai fait jusqu'à 14 hectares de maïs.
14 hectares de maïs.
Oui.
C'est-à-dire que votre exploitation agricole a une vingtaine d'hectares.
Oui, je fais le maïs, je fais le soja, je fais 3 hectares de soja,
oui.
Je fais 2 hectares d'igname et 1,5 hectare de riz pour la consommation de ma famille.
D'accord.
En dehors de ça, j'ai des petits jardins pour avoir les légumes pour faire la sauce.
Pour faire la sauce.
Voilà.
D'accord. Et madame s'occupe du jardin.
Oui, madame s'occupe du jardin, elle travaille au champ. Nous n'avons pas des semoirs comme en France, donc les femmes se chargent de semer.
D'accord.
Donc quand nous labourons, nous les hommes, on laboure, les femmes sèment, elles nous suivent en même temps. Au moment de l'épandage d'engrais, elles nous aident à épandre l'engrais. Et quelquefois aussi, c'est leur travail parce que l'homme ne sait pas comment tenir la calebasse pour épandre l'engrais. Donc c'est la femme qui le fait.
Qui le fait.
Voilà. Et elle est chargée aussi de préparer la nourriture pour nous amener au champ quand on travaille. Donc du coup, c'est un grand travail pour elle aussi. Elle contribue beaucoup aux activités.
Les femmes contribuent beaucoup
aux activités champêtres.
Aux activités agricoles.
Voilà.
Eh bien, on va faire une pause et puis nous allons poursuivre dans la découverte de l'agriculture au Togo.
D'accord, merci.
Ceci n'est pas une pub qui vous dira que les petits Africains ont tous un gros ventre et des mouches collées aux yeux. Ceci est une pub pour vous rappeler que les hommes et femmes des pays du Sud ont du talent et des idées et qu'ils méritent mieux que nos clichés. Pour les aider durablement, faites un don pour les projets nés là-bas. Grâce à votre générosité, le CCFD Terre Solidaire a soutenu 500 projets dans 63 pays. Ensemble, continuons. Donnez au ccfd-terresolidaire.org.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Terre Solidaire et nous sommes avec Monsieur Kokolukiliou qui vient d'un village, Yarakaibie, du Togo. Je pensais que 20 hectares, c'est une ferme importante pour le Togo, non ? J'avais l'impression que les fermes sont beaucoup plus petites.
Oui. En fait, bon, au Togo, depuis un certain moment, avec les formations que l'État apporte aux agriculteurs, les gens essayent d'élargir leur formation. Il y a des producteurs qui font jusqu'à 100 hectares, 150 hectares.
Ah oui?
Oui, parce que j'en connais certains à côté de moi. Il y a un qui a été lauréat, premier producteur au forum 2015, qui a eu décroché un tracteur parce qu'il a fait jusqu'à 160 hectares de maïs et notamment il avait aussi des hectares de soja, il avait aussi presque 100 hectares de riz aussi.
Oui, donc là c'était les grandes fermes du Togo.
Oui, c'est des gens qui ont suivi des formations et ils exploitent de grandes fermes comme vous l'avez dit. Même j'en connais, il y a plus de 3 ans, il y avait des élèves français qui sont allés dans ce centre pour faire des stages de formation aussi.
D'accord.
Oui.
Donc une agriculture très intensive, très productive.
Oui.
Et j'avais l'impression que Mapto, justement, alors d'une part, aidait pour faire cette agriculture intensive, et puis aussi pour faire évoluer cette agriculture.
Oui, au fait, les membres de Mapto, les producteurs dont je parle qui font de grandes superficies, c'est des membres de Mapto.
Oui.
Et ils ont commencé avant nous. Moi, c'est peut-être en 2000, je peux dire que j'ai commencé à travailler proprement le champ. Sinon, avant, on accompagnait nos parents au champ, on les suivait et on voyait ce qu'ils font. Mais en 2000, j'ai commencé et c'est en 2005 que je me suis mis en terre que je vais faire l'agriculture et j'ai commencé.
Primitivement, vous vouliez faire quoi ? Vous étiez hésitant et vous n'étiez pas sûr de faire l'agriculture ?
Non, c'est pas que j'étais hésitant. Bon, au fait, je devais poursuivre les études, au moins avoir un niveau un peu élevé pour savoir au moins lire et écrire et faire un plan d'agriculture avant de commencer. Sinon, je ne peux pas me mettre quand je ne sais pas lire et écrire parce que c'est important pour moi. Voilà, aujourd'hui, je suis en France. Si je n'avais pas étudié au moins à un niveau un peu élevé, je ne devais pas m'exprimer. Donc voilà, c'était l'objectif pour lequel je poursuivais l'étude. Et d'abord, bon, je ne sais pas que je dis j'ai un niveau élevé. J'ai fait que la première au lycée.
Donc, c'est pas mal, quand j'avais, même, c'est le bac, presque,
voilà,
c'est le bac.
J'avais voulu décrocher à mon bac avant d'entamer l'agriculture, mais il s'est fait que mon papa est décédé subitement. Il fallait que je revienne rester à la ferme pour supporter mes petits frères à ce qu'eux aussi puissent aller à l'école. Donc c'est ce qui m'a fait revenir et subitement je n'ai pas eu mon bac.
D'accord, donc là, des raisons familiales ont fait que vous êtes devenu agriculteur, mais vous avez voulu être agriculteur pour produire plus, produire mieux,
voilà.
Pour pouvoir à la fois permettre la scolarisation des frères et sœurs, si j'ai bien compris,
oui,
et
oui.
Puis maintenant aussi celle de vos propres enfants,
voilà.
Et de la famille.
Voilà.
Et l'agriculture permet de vivre, d'assurer tout ça.
Oui, au fait, bon, nous, on se débrouille, je me débrouille. Si aujourd'hui j'ai des moyens, moi j'ai l'idée aussi d'augmenter un peu ma superficie parce que je n'arrive pas à avoir un revenu annuel qui peut me garantir la sécurité de mes enfants, que dès demain, je peux m'en servir de ça pour leur nourrir. Donc, Au fait, les moyens me manquent et je me limite actuellement à 14. Sinon, je suis en train de chercher à ce que je puisse aller très loin, plus que les 14 hectares aussi.
D'accord. Alors, on évoque, à propos de MAPTO, le rôle de MAPTO dans les transformations des techniques agricoles, et on parle du bol MAPTO.
Voilà.
Alors, parlez-moi un peu de ça, parce que...
Voilà, au fait, on a constaté à la naissance de MAPTO, après peut-être 3-4 ans, que les commerçantes à la récolte viennent de Lomé.
Oui.
La capitale, c'est ceux qui sont un peu aisés, elles viennent pour acheter. Et elles venaient avec des bols très grands. Même quelquefois, ils achètent le bol, ils l'amènent chez les soudeurs, on monte les bords et ils viennent pour mesurer avec ces bols. Nous avons constaté que c'était une tricherie. Donc, c'est le pourquoi nous avons cherché à mettre en place le bol MAPTO. Le bol MAPTO, c'est qu'on devait aller directement au kilo, mais nous avons constaté que dans les fermes reculées, les producteurs ne sont pas tous lettrés. Donc, ils ne peuvent pas lire sur la balance, ils ne peuvent pas avoir l'argent aussi de s'acheter une balance. Donc, le pourquoi nous avons pris le bol MAPTO. Et c'est un bol, quand nous le mesurons 40 fois, il fait juste un quintal. Donc, c'est un bol de 2,5 kg. Au contraire, quand les bonnes femmes là venaient pour s'acheter le maïs, ils tenaient des bols de 4 kg, 3,5 kg. Donc, c'était une tricherie que du coup, nous avons voulu supprimer. Et du coup, jusqu'à présent, on est en sensibilisation dans les marchés. Et de nos jours, nous avons 152 marchés que nous avons pu obtenir. Et les gens essayent d'utiliser le bol MAPTO, même si ce n'est pas complet, mais on a l'effet dans les marchés.
Ça, c'est intéressant parce que ça montre comment aussi ce sont les paysans eux-mêmes qui ont décidé de sortir de cette tricherie, de pouvoir...
Oui, c'est comme ça parce que ça intéresse d'autres. Souvent, ce que nous rencontrons comme problème dans ce travail, vous allez voir qu'un paysan, peut-être, il a problème d'argent pour s'acheter quelque chose. Mais quand nous venons le matin, le comité de sensibilisation vient le matin, il interdit aux gens de vendre avec les bols des bonnes femmes. Donc certains se cachent au moins dans les coins parce qu'il a un problème urgent, il veut se faire avoir de l'argent. Il veut vraiment vendre dans un coin avec les gros bols pour s'en servir de l'argent pour résoudre son problème. Du coup, elle se cache, elle ne veut pas qu'on sache. Mais d'autres, quand elles voient le travail que nous faisons, elles sont intéressées et elles savent que c'est dans leur intérêt que nous faisons
voilà,
ce travail.
Voilà, c'est plus honnête
voilà,
et c'est dans leur intérêt.
C'est ça, dans leur intérêt. Elles le reconnaissent, mais c'est que certaines aussi nous posent des problèmes que si c'était possible de leur trouver une petite somme à la récolte pour s'en servir et après ils vont vendre, là, elles seront aussi aisées pour résoudre les petits problèmes de famille et après, en même temps, mesurer avec les bols n'importe quel moment.
Voilà, donc là, on voit aussi comment cette association a facilité et permis des échanges plus justes.
Oui, et tout ça, c'est grâce à nos partenaires qui nous donnent de l'argent. Parce que les comités qui sortent dans les marchés, quelquefois, ils viennent de loin. Il faut les faire déplacer. Donc, c'est grâce au CFD, certains partenaires de Suisse qui agissent sur les programmes, donc que nous arrivons à faire ce travail.
Donc ça permet aussi peut-être de conserver des récoltes et les vendre après au moment où on en a besoin et pas simplement tout de suite après la récolte.
Oui, c'est même notre objectif parce que à la récolte, comme les récoltes ne sont pas chères, donc avec l'utilisation du bol MAPTO, et si c'est que nous avons des petits moyens pour les accompagner, ça nous permettra de garder les récoltes en sécurité et le vendre quand ils sont chers et avec le bol MAPTO.
Donc, des économies qui profitent aux paysans.
Aux paysans, voilà.
Le temps d'émission s'achève. Merci, Monsieur Kokoloukiliou, d'être venu nous donner des exemples concrets de cette vie agricole. Cette découverte est particulièrement intéressante. Je vous propose, chers auditeurs, de nous retrouver la semaine prochaine, encore avec Monsieur Kokoloukiliou. Bonne semaine à tous.